5h, 5h30.
Bonjour chez vous.
Avec EMCI TV.
Une autre chose que l'offrance va produire dans ta vie, Matthieu chapitre 24, verset 10. Dans la version française, on ne sort pas la subtilité de l'offense. On ne sort pas la subtilité de l'offense. Il dit ceci dans la version Louis II, à cause de l'iniquité, plusieurs succomberont, se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs succomberont, se trahiront et se haïront les uns les autres. Mm-hmm. Dans la King James, en anglais, il est dit, many will be offended. Ça veut dire plusieurs seront offensés. Mm-hmm. And shall betray one another. Donc, plusieurs seront offensés et deviendront traîtres les uns envers les autres. L'offense aura une conséquence de déloyauté, c'est-à-dire de betrayer, de trahir son alliance. Un monsieur, si vous êtes offensé par votre épouse, si cette offense-là finit par créer l'amertume, vous allez vouloir remettre en cause votre union de mariage. Mm-hmm. Vous allez trahir votre union. Many will be offended. Beaucoup de gens quittent leur département, quittent leur église à cause de l'offense qui a progressé en eux. Une fois que l'offense est dans votre cœur, si vous ne pardonnez pas, si vous ne traitez pas, vous ne serez pas fidèle à vos premiers engagements, aux engagements que vous avez pris dans votre église, dans la mission, voilà. Et l'offense, selon Matthieu donc 24, verset 10, dans la version anglaise, est une puissante arme de Satan dans ces temps de la fin. Faire en sorte que vous soyez vexé, faire en sorte que vous soyez frustré, que vous soyez en colère contre quelqu'un ou même contre Dieu. Il faut apprendre à traiter avec ce mal pour que vous soyez des personnes fidèles dans votre relation, que votre mariage soit béni. Vous pouvez être même quelquefois même offensé par vos propres enfants. Si vous ne savez pas faire, ça va couper votre relation et vous allez trahir vos enfants. Les enfants vous trahiront les parents. Mmh. Les parents trahiront les enfants. Amen. Et la dernière chose, une conséquence de l'offense maintenant, qui va maintenant te concerner donc directement, donc tu as compris premièrement, elle affecte ta relation avec Dieu. Elle te coupe de la grâce, elle te coupe du pardon. Deuxième chose, elle affecte ta relation avec les autres. Donc Matthieu 24, 10, version anglaise, tu ne seras plus loyal à tes engagements vis-à-vis d'autrui, et ça va entraîner tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est que ça va te rendre malade, ça va te fragiliser. Beaucoup de maladies de notre siècle viennent des conséquences de l'offense. L'offense, c'est vraiment une saleté de l'âme, c'est pour l'âme, c'est un poison dans votre âme. C'est un poison qui va s'installer et qui va vous ruiner vous-même, qui va vous ruiner vous-même. Dans chaque chapitre 5, verset 16, un passage que nous connaissons. Mais en fait, je crois que la version Louis II n'a pas utilisé le bon terme pour traduire le mot. C'est juste ce qu'ils ont dit. Le mot grec, c'est paraptoma. Il est dit, Jacques chapitre 5, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, le mot péché ici, c'est le mot paraptoma, qui est celui qui est utilisé tout le temps pour parler d'offense. Mais ici, on a dit péché. OK? Donc, si vous prenez le mot grec paraptoma, quand on dit pardonner, pardonne-nous nos offenses, c'est paraptoma. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonner, c'est le mot paraptoma. Chaque fois que vous voyez le mot offense, c'est le mot paraptoma qui a été utilisé. Mais dans la version Jacques, chapitre 5, verset 16, ils l'ont traduit par péché. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Dieu n'est pas. Une offense est un péché, ça c'est important. Donc la traduction n'est pas fausse. Mais ça ne permet pas aux gens de voir. Les péchés comme nous les connaissons, ce n'est pas aux autres qu'il faut les confesser, c'est à Dieu. Le texte, il faut le lire comme cela. Confessez donc vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est-à-dire que l'offense rend malade. L'offense rend malade et crée beaucoup de maladies. Une fois, je priais, l'Esprit m'a fait comprendre que le développement des cancers vient de l'offense. Les gens sont blessés par la vie. Les gens sont froissés. Et le sang est empoisonné. Le sang est empoisonné. L'âme, parce que l'offense va affecter l'âme, l'âme est empoisonnée. Et ça va fragiliser le sang. Ça va fragiliser donc le sang de vos enfants qui naîtront de vous. Parce que vous savez très bien que dans le sang, il y a plus que des globules. Le sang transporte la mémoire. Le sang transporte des informations. Il ne transporte pas seulement des informations physiques. Il transporte aussi la mémoire des choses qui vous ont blessé. Okay? Et ça fragilise les bébés que vous portez. Les enfants naissent de plus en plus avec des maladies. Parce que le monde, selon Matthieu 24, est davantage offensé. Les gens sont blessés. L'offense est une âme de Satan. ne le laissez pas vous vaincre. Et ça vous rend malade, ça crée toutes sortes de maladies, les insomnies, les cauchemars dont on a parlé précédemment, les cancers, les diabètes, les problèmes d'hypertension. L'offense va vous mettre dans les stress. Quand vous voyez des personnes qui vous ont offensé, vous êtes stressé, angoissé, la peur de les rencontrer. Vous êtes dans des communautés, quand vous partez, vous sentez très mal de rester là. Et au fur et à mesure, vous fragilisez votre âme et votre corps et votre communion avec Dieu. Ça ne vaut pas la peine de garder un poison pareil en vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri? Jacques 5,16. Il faut en parler. Amen. Il faut en parler. Il faut en parler. Le simple fait même de discuter. Je dis, oh, quand j'étais enfant, mon papa m'a abandonné. Ça m'a fait mal. Juste cette parole va permettre la guérison. Ne restez pas simplement pour en parler avec Dieu. Mais Dieu dit ici, confessez vos offenses les uns les autres. Parlez avec des personnes. Vous voyez ce qu'on appelle souvent les thérapies de groupe? C'est basé sur Jacques 5,16. De s'asseoir avec des personnes et puis de discuter des sujets. De discuter des choses qui vous ont fait mal. Vous allez voir que d'autres personnes ont vécu la situation similaire et puis comment ils ont abordé les sujets. Et ça va vous aider. Ça va vous aider. Quelle que soit la forme d'offense, les offenses se traitent en parlant avec Dieu, mais en parlant avec les autres. En parlant avec les autres. Parce que c'est très souvent d'autres personnes qui vous ont blessé. Amen. Et puis, je termine avec cela. Une arme puissante que vous donne l'amour de Jésus, c'est l'amour excuse tout. En 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour excuse tout. Donc, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à excuser, c'est que l'amour de Christ n'est pas parfait en vous. Comment l'amour de Christ est parfait en vous? Il faut simplement lui demander, Seigneur, apprends-moi à aimer. Il va vous le donner. Amen. Regardez Jésus, pendant que les gens le crucifient à la croix, l'excuse va vous protéger. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pensez que ceux qui le crucifiaient ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais l'amour est... pour guérir de l'offense, il faut savoir souvent aller trouver auprès de Dieu pourquoi la personne est devenue comme cela. Et généralement, vous avez la tendance à accuser. C'est souvent quand on regarde des films et puis on voit comment le bandit est devenu bandit. On a une tendance à lui pardon, on a compassion. Donc, l'excuse, c'est... tu vois, si un enfant vient et puis il t'injurie, un enfant de 2 ans, tu vas te dire que c'est parce qu'il a 2 ans. Si un adulte t'injurie, tu vas te dire, il sait ce qu'il fait. Donc, je lui en veux. Un enfant de 2 ans, on va se dire, c'est pas ce qu'il fait. Donc, c'est ce que Jésus a utilisé. C'est une arme. L'excuse est une arme pour garder votre cœur de l'offense. Allez trouver auprès de Dieu. Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi cette personne est devenue si négative, etc., etc. Donc, voilà, sois guéri dans ton âme, je le déclare dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades à cause des offenses, que Dieu vous guérisse, que tout ce dont la communion avec Dieu a été affecté à cause des offenses, qu'aujourd'hui le pardon soit en vous et que cette intimité avec votre Dieu soit ressuscitée. Soyez bénis.
Amen, amen. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède.
En effet.
Et vraiment, je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir se sentir libéré de ce fardeau, du non-pardon de l'offense. Merci beaucoup, pasteur Mohamed. Vraiment, je prie de tout cœur que cette émission a pu atteindre sa cible vraiment dans vos cœurs. Et n'attendez pas, ne vous dites pas non, mais je sens que oui, mais je ne suis pas tout à fait prête. Je vais attendre un peu. Comme Aurélie l'a dit, ce n'est pas une émotion, c'est une décision, c'est un choix. Prenez la décision du pardon. N'attendez pas une seconde de plus. C'est le moment de relâcher le pardon et d'enfin pleinement vous libérer. Alors demain, on se retrouve, on va voir qu'est-ce qu'un chrétien charnel. On change encore de sujet, je vous dis, cette semaine, on touche à tout. Pasteur Mohamed, vous ferez une rubrique conseil du coach, comment contrôler sa chair. Ah là là, ça c'est important. Et je sens qu'il y en a déjà qui n'ont pas envie d'entendre cette émission. On n'aime pas ce genre de thématique, mais c'est super important. Donc on va se retrouver demain. Merci Aurélie, merci Pasteur Mohamed. Et bonjour chez vous.
La chair, en fait, elle rend le chrétien encore vulnérable aux démons. Voilà. Pour avoir donné ta vie à Jésus, marche avec Jésus, mais si tu te laisses affaibli, non seulement tu ne pourras pas recevoir la nourriture solide spirituellement, comme le Seigneur le dit, des révélations importantes, des orientations de Dieu, mais en plus de là, tu deviens vulnérable aux assauts de l'ennemi. Un texte qu'on lit souvent et qui est très important, la chair, la vie charnelle a été livrée à Satan, hein, on le cite dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et puis il dit au serpent, serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit au serpent, on va manger la poussière. Mais le serpent, on connaît les serpents. Les serpents n'ont pas pour nourriture la poussière. Mm-hmm. Les serpents ont pour nourriture des petits rats, des rongeurs, des choses de ce genre. Mais le serpent ne mange pas la poussière. Donc c'est une métaphore, c'est une image qui traduit quelque chose. La partie poussière de Adam, c'est sa chair. Car Dieu a pris la poussière de la terre, il a fait le corps, il a soufflé, et l'homme est devenu une âme vivante. Alors quand Dieu dit au serpent, qui est une image de Satan, tu mangeras de la poussière, et à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, il est tout simplement en train de dire qu'un chrétien, quelqu'un qui marche selon la poussière ou selon la chair, devient la nourriture du diable. Il devient l'aliment de Satan. Alors c'est ainsi qu'avec les œuvres de la chair, dans l'église, l'ennemi arrive à s'infiltrer dans l'église, casser le réveil spirituel, briser la vie des prières, la vie de prière des personnes, leur donner des maladies, parce que c'est ce qu'ils consomment, c'est sa nourriture. Donc, on doit absolument faire ce dont parle le Seigneur, marcher par l'esprit, de peur de couper notre communion avec Dieu, de peur d'être vulnérable au serpent, au diable. Et voilà, on doit marcher par l'esprit.
Même par rapport à ce qui vient d'être dit, je veux rappeler, en terminant cette discussion, c'est que c'est un choix.
Oui.
Marcher par l'esprit, tu décides de dire, je vais, c'est fini avec cette vieille façon de marcher, je choisis maintenant. Après, il y a des clés hein, qu'il faut appliquer, mais c'est une décision. Mm-hmm. Et aujourd'hui, peut-être que tu te reconnais là-dedans et tu dis, en effet, j'étais comme ça et ça veut revenir. Ben, aujourd'hui, dis-toi, non, là, ça suffit, je prends position, je veux marcher par l'esprit davantage. Et on va en entendre parler avec le pasteur Sanogo.
On va voir comment contrôler sa chair, parce que c'est possible et c'est nécessaire, vous le disiez en introduction. On va voir ça dans la rubrique Conseil du coach.
Alors, comment est-ce qu'on arrive à marcher par l'esprit? On a lu un super passage. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, le Seigneur, notre Dieu, nous a donné la clé. Hein, parce que lorsqu'on parle des désirs de la chair, ce sont des choses qu'on ressent. Galates chapitre 5, le passage qu'il a lu tantôt, nous explique, nous présente un peu les œuvres de la chair. Mm-hmm. Il va dire ceci à partir du verset 22, les œuvres de la chair, c'est les attirances charnelles, l'impudicité, c'est la débauche. Donc c'est par la chair qu'on a des personnes qui vivent le sexe avant le mariage. C'est cela, les œuvres de la chair, c'est l'adultère. Mm-hmm. Il va dire les œuvres de la chair, c'est la colère, quelqu'un qui se met régulièrement, souvent, qui est contrôlé par sa colère, est une personne qui est charnelle. Les œuvres de la chair, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui nous contrôle, qui n'est pas Dieu. Alors, quand tu es contrôlé par ton téléphone, contrôlé par ta télévision, c'est une forme d'idolâtrie pour plusieurs. Celui qui prie le matin à leur réveil, c'est leur téléphone. Ils se réveillent pour voir les news, aller sur YouTube, aller sur Facebook, aller sur Insta, aller sur TikTok. C'est la chair. Et parce que ça, c'est la place de Dieu. Dieu est le premier. Donc, quand tu te réveilles le matin, Seigneur mon Dieu, merci. Mais maintenant, quand tu te réveilles le matin, quel est le WhatsApp qu'on m'a envoyé? Quel est le message qu'on m'a envoyé? C'est une forme d'idolâtrie. Et ça, c'est la chair qui t'attire à avoir ce type de réaction. La chair s'oppose automatiquement. La Bible dit, les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont diamétralement opposés. Ils sont opposés. Donc, la chair va délibérément choisir de faire le contraire de ce que l'esprit veut. La chair a une nature. Tout à l'heure, je disais qu'elle a été livrée à Satan. C'est pourquoi j'ai dit cela, pour te montrer comment l'ennemi, pour t'atteindre, va utiliser la poussière qui est en toi. Voilà. Mais Christ nous a donné la solution. Il nous a donné les solutions. La chair est derrière les mésententes. Et il dit, les yeux de la chair, ce sont les jalousies. Les jalousies. Pourquoi l'autre est plus apprécieux que moi? Pourquoi l'un, etc. Donc ça va. Il dit, les yeux de la chair, ce sont les dissensions, les disputes. Mmh. Donc, chaque fois que vous voyez des personnes qui se tirent là-dessus dans des communautés, c'est les yeux de la chair. Mmh. Ça permet à l'ennemi qui a reçu cela comme nourriture d'entrer dans les communautés, d'entrer dans la vie des personnes et de les affecter, de les atteindre. C'est pas des yeux de la chair. Donc, Caïn a tué Abel, c'est qu'on a la jalousie, etc. Que ton Dieu t'en délivre aujourd'hui.
Amen.
Alors, dans le livre de Jean, chapitre 3, d'abord, Donc la solution principale, ce qu'il faut recevoir, c'est que Paul dit, il faut marcher par l'esprit. Oui. Il faut marcher par l'esprit. Et le passage que tu as cité, il est vraiment super parce qu'il dit, il nous a appris, il dit, nous sommes appelés à la liberté, à l'opposé de la loi. Donc marcher par l'esprit, ce n'est pas marcher par la loi. C'est une autre façon de faire, parce qu'on a envie de se dire, mais bon, donc que dit la loi ? Tu ne commettras pas l'impudicité, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc voilà ce que je vais faire. Donc cette manière de procéder, et c'est là la beauté du livre de Galates, cette manière de procéder est aussi charnelle. Il y a des gens dont leur chair peut développer une très forte piété.
Mmh.
Voilà, ils peuvent développer une très forte piété avec une forme d'ascétisme, de privation de choses nécessaires à la chair pour soi-disant plaire à Dieu. C'est même encore une autre forme d'œuvre charnelle. Alors, comment est-ce qu'on arrive à marcher par l'esprit ? En Jean chapitre 3, Jésus donne l'explication. Il dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La première étape pour marcher par l'esprit, c'est de naître de nouveau. S'il faut naître de nouveau, il faut donner ta vie à Christ. Il faut accepter Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie ne peut pas marcher par l'Esprit, parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu.
Yeah.
Comment tu peux marcher par une chose que tu n'as pas en toi ? Donc, si tu me suis en ce moment, que Christ n'est pas dans ta vie, sache que tu peux avoir peut-être de l'autodiscipline, mais il y a un des problèmes de la chair qui va finir par dominer sur toi. Voilà. Et même si tu arrives à avoir une piété plus saine que celle de beaucoup de chrétiens, comme le jeune homme riche qui est venu vers Jésus, et qui dit que depuis qu'il est enfant, il a respecté presque tous les principes de la loi. L'apôtre Paul disait qu'il était irréprochable à l'égard de la loi. Mais il marchait quand même selon la chair. Donc, ne confondez pas votre piété religieuse avec la nouvelle naissance. Jésus a parlé de la nouvelle naissance à un monsieur appelé Nicodème, qui était un docteur de la loi. Tu dois naître de l'esprit. Tu dois donner ta vie au Christ et le laisser comme Seigneur et Sauveur. Alors, Dieu va te donner son esprit. C'est le début de marcher par l'esprit. La deuxième étape, c'est la partie la plus, je dirais, la plus délicate. Dans le livre de Corinthiens, justement, le Seigneur dit, et le passage que Yveline a lu tout à l'heure, vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants. Donc la deuxième partie pour marcher par l'esprit va être de laisser l'esprit vous nourrir par la parole pour mûrir. Parce qu'un chrétien qui est un enfant spirituel sera naturellement charnel. Alors ne soyez pas choqués, c'est comme ça la vie. Même lorsque on a des enfants, ils sont charnels. Par exemple, c'est quoi la chair en fait? Un enfant a envie de faire pipi. Il le fait sur lui. Quelqu'un qui vit selon la chair, c'est quelqu'un qui il a envie de mal parler, de dire des choses à tout ça. Il ne freine pas sa bouche. Ouais. Il le dit. Il a envie, la plupart des yeux de la chair, c'est l'excès de table. Il est devant un repas. Il veut se bourrer le ventre. C'est-à-dire, il n'arrive pas à contrôler les choses. Et ça, on le fait aussi avec les enfants, par problème de maturité. Plus un enfant va grandir, il va savoir que, ah ok, ma vessie est pleine, je veux faire pipi, je vais aller aux toilettes. Voilà. Vivre selon la chair pour un enfant, c'est comme quand on est bébé, ben là, on est obligé de mettre les couches. Ok, on est obligé de mettre les couches parce que l'enfant, il ne sait pas contrôler cela. Donc, la deuxième étape après votre nouvelle naissance, c'est, pour marcher par l'esprit, c'est de mûrir dans votre foi. Comment vous allez mûrir? Et c'est exactement le beau passage que tu as cité tantôt, c'est votre alimentation spirituelle. L'Esprit Saint va vous produire à marcher par l'esprit. Commence d'abord par lire la Bible. C'est que beaucoup de gens, quand ils parlent de marcher par l'esprit, ils s'entendent. Le Saint-Esprit vient me dire, lève-toi, prie à 2h du matin, prie à 4h du matin. Pour eux, c'est ça, marcher par l'esprit. C'est pas faux. Mais la première étape, c'est ici. Lis ta Bible, prie chaque jour. Prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour. Si tu veux grandir. C'est comme ça fonctionne. Amen. Donc, pour mûrir, il faut manger la parole. Il faut la méditer régulièrement. Et il va avoir une vie de prière. Tu vas voir que plus tu lis la Bible, plus tu la médites et plus tu l'appliques, plus tu arrives à contrôler, tu arrives à moins te mettre en colère. Tu vas commencer à voir que bon, aujourd'hui je veux prier juste cet exercice. Toujours dans la maturité spirituelle, le deuxième exercice, ce sera de marcher par l'esprit, c'est le discipula. Le discipula, Jésus a dit, fait de toutes les nations des disciples. L'esprit va vous amener à avoir une certaine vie. Il va commencer à bâtir en vous des vies de discipline. Il va bâtir en vous des vies de discipline. La discipline consiste à renoncer à soi-même pour suivre le Christ, pour être un disciple du Christ. Et cette étape-là, elle va permettre d'avoir ce qu'on appelle l'esprit va vous conduire vers de bonnes coutumes. Va vous conduire vers de bonnes coutumes, prendre de bonnes habitudes, voilà, pour ne plus laisser votre juste à vos désirs lâcher, mais prendre de bonnes habitudes. Moi je peux te laisser. Vous savez, il y a des choses que, bon, par exemple, maintenant on a les voitures automatiques, mais même quand tu viens de faire le permis, tu conduis par, tu réfléchis à ce que tu fais.
Oui.
Si tu as une voiture à manuel, là, je vais à la première. Quand tu es tout nouveau chauffeur, tu fais attention à tout ce que tu fais. Mais à un moment donné, à force de le faire, ça devient un réflexe. Tu n'y penses même plus. Ça devient un réflexe.
Ça a des automatismes.
Ça devient des automatismes. Donc au départ, l'esprit va t'amener, donc, c'est ce qu'on appelle la discipline, à bâtir certains automatismes. Certains automatismes de protection, certains automatismes. Donc bâtir l'automatisme de la prière, bâtir l'automatisme de se référer à la parole de Dieu, bâtir l'automatisme d'avoir... Si vous lisez bien Jésus, la Bible dit, Jésus alla sur la montagne selon sa coutume. Pas que l'esprit forcément lui disait, va prier. C'était devenu une coutume. La Bible dit qu'il montait à la synagogue selon sa coutume. Donc, la volonté de l'esprit, à un moment donné, c'est de créer en vous de bonnes coutumes. La coutume d'aller au culte, la coutume de lire la Bible, la coutume de la prière. Ce qui va faire que même lorsque vous allez vous réveiller le matin et que votre chair n'a pas envie de prier, parce que c'est devenu une coutume, vous allez prier. C'est comme quand vous avez appris à conduire le vélo. Au début, vous réfléchissez à mon pied va devant, mon pied va derrière. Et puis à un moment donné, ça devient une coutume. Quand vous conduisez, vous pouvez parler. L'Esprit Saint va vous apprendre à discipliner votre corps. Et vous allez passer donc méditation, donc naissance de nouveau, mûrir, grandir dans la parole de Dieu, la prière, et l'établissement par le Saint-Esprit de la bonne coutume. Amen. Et la quatrième chose, hein, j'essaie de synthétiser comme ça, la quatrième chose, il va te dire, j'aime ça beaucoup, marcher par l'Esprit. Et là, une fois, Dieu m'a parlé de ça, il m'a dit, mon fils, parce que j'avais fait des efforts, j'étais arrivé, j'avais une vie de prière. Dès que j'ai commencé, je lis les livres des héros de la foi, il pouvait prier 5 heures d'affilée. J'étais tout nouveau chrétien. Je dis, ouais, je vais avoir cette coutume. Je priais 5 heures d'affilée. Je faisais 40 jours de jeûne chaque année. Déjà comme ça, je dis, waouh, là, je serais un homme de réveil. Et puis après, j'ai eu certaines situations dans ma vie. Et puis, paf, toute ma vie de prière s'est écoulée. Je n'arrivais plus du tout à jeûner, même jusqu'à midi. Je dis, mais ma chair était revenue en force. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à jeûner. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis l'esprit, une des choses qu'il m'a dites, tu ne marchais pas par l'esprit, tu courais par l'esprit. Je dis, ça veut dire quoi la différence? Il dit, tu allais trop vite. Marcher, ça veut dire faire pas après pas, évolue progressivement. Bâtir une coutume de prière, n'essayez pas, par exemple, quand vous commencez à prier, de dire, vous êtes tout nouveau chrétien, n'essayez pas de prier 10 heures de temps. Laissez-vous de temps en temps le faire, mais commence pas à prier 20 minutes. Et puis respecte ça. Après, tu vas voir que c'est très insuffisant. Alors, marche, ne cours pas. Ne cours pas. Positionne les choses pas à pas. Lorsqu'on court, on revient très vite sur les choses qu'on a acquises par les bonnes coutumes qu'on a apprises par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, il continue dans Galates chapitre 5, en nous parlant du fruit de l'Esprit. Il dit, comment on marche par l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc, marcher par l'Esprit, l'Esprit va vous apprendre à marcher dans l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. L'esprit va t'apprendre à marcher par la joie. Donc, quand tu n'arrives plus à marcher par la joie, c'est que tu constates qu'il y a des choses qui encore excitent ta chair. OK? Qui arrivent à te mettre en colère et à casser ta joie. Tu reviens dans sa présence et tu vois dans tout ce qui est cité comme les 9 éléments du fruit de l'esprit. Travaille constamment avec le Saint-Esprit à les voir grandir en toi. Ton amour doit grandir. La Bible dit que votre amour augmente de plus en plus par la connaissance du Seigneur. Et c'est comme ça. Et tu vas voir que plus tu travailles sur ces fondamentaux-là, tu seras de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu sauras à quel moment il te dit, va à gauche, va à droite, évite telle situation. L'Esprit m'a sauvé de beaucoup de situations comme ça. Il m'a dit, aujourd'hui, ne pars pas à tel endroit. Et parce que je ne suis pas allé, j'ai évité un drame. Si je partais là-bas, je serais parti par la chair. Et ça allait me que je serais tombé dans des pieds. Donc l'esprit sera à même de vous orienter progressivement. Progressivement. Mmh. Mais ce que vous devez rechercher, naissance de nouveau, méditer, lire la parole de Dieu. L'esprit va vous conduire à ça. Deuxième étape, les bonnes coutumes. Mmh. La troisième étape, les bonnes coutumes. Et après, la marche. Évoluer progressivement dans le fruit de l'esprit. Mmh. Et c'est le bâti étape à étape. Mmh. Votre amour, votre patience, votre douceur, etc. Et vous allez voir que ça devient très facile.
Amen. Alors,
c'est par l'esprit.
Excellent. Mmh,
merci. On vous lance un défi alors. Allez, on dit qu'il faut 21 jours à peu près pour prendre une nouvelle habitude en général. On vous lance un défi, 21 jours où vous maîtrisez votre chair. Des fois, vous avez envie de dire certaines choses, vous avez envie de médire ou bien de répondre. Vous vous verrouillez, vous avez envie de regarder certaines séries, certaines choses. Non. Pendant 21 jours, on vous lance ce défi, mettez en place une nouvelle discipline de prière, de méditation de la parole, et je pense que vous allez vraiment voir la différence, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit Frank, c'est une décision de maîtriser sa chair, et on vous invite vraiment à prendre cette décision. Vous allez voir, votre vie va être radicalement différente, et c'est comme ça qu'on devient un chrétien mature, et qu'on peut arriver à la stature de Jésus-Christ, puisqu'on doit tous y tendre, et marcher selon l'Esprit est
Hallelujah.
Essentiel.
Ouais.
Merci, pasteur Mohamed, d'être venu dans Bonjour chez vous. Quel plaisir de vous avoir accueilli.
Pareil, moi, je suis content de vous voir.
Ah. Super de vous avoir sur le plateau.
Vraiment, vraiment. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez déposé aussi, tous ces enseignements précieux qu'on garde précieusement et qui vont permettre aux gens de pouvoir aller de l'avant.
J'allais dire, pasteur Sanogo, c'est parmi les premiers invités qu'on avait eu à l'ancien bâtiment.
C'est vrai.
Quand on était à l'autre endroit. Tu t'en rappelles?
Au tout premier, bien sûr.
Ouais, 2012, on avait déjà filmé des choses ensemble.
Les 2013, pensées du jour, les pasteurs, j'ai une
pasteurs,
question.
J'ai une question surtout, mais les pensées du jour. Tout ce qu'on avait fait à la base, je me rappelle. Tu venais et puis tournais les émissions.
Tournais les émissions de longues heures.
Dans la toute petite salle. Dans la toute petite salle.
Oui, c'est ça.
Il était temps que vous veniez dans Bonjour chez vous, alors.
Ah, il était temps que je
venais.
Je dois parcourir tous les différents plateaux de.
C'est ça, c'est obligé, il faut tout faire.
On a fait prière, respirer, il me reste quoi?
Et là, il va avoir...
À table avec Annabelle.
Ouais, elle que j'aimerais bien voir, c'est Delicious avec Dena, l'émission de cuisine.
Ah, qu'est-ce que je fais là-bas?
Ah, cuisiner.
Elle va cuisiner. Je ne sais pas cuisiner.
C'est ça qui est génial.
Pasteur Atoms est allé et il a fait...
Tu peux...
Je peux pas le dire, mais il a fait des belles recettes.
C'est ça.
Mais bon, il y a plusieurs émissions encore à découvrir, mais ça fait plaisir.
Non, je suis dangereux en cuisine, il faut faire ça. Si elle me reçoit, elle va pleurer.
Dena, si tu nous écoutes, invitation lancée, c'est sûr. En tout cas, merci encore d'être venu. C'était un privilège de vous avoir. Et nous, on se retrouve demain. Demain, on va parler d'autorité spirituelle. Jusqu'où obéir? Et oui, on va parler des différents excès, à la fois d'un côté, à la fois de l'autre. On va parler d'abus spirituels, on va parler de rébellion. Une thématique très, très importante. Alors, on vous retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
Il est tout juste l'admi sur Phare FM. Bienvenue dans Pause Café jusqu'à 6h30. C'est Philippe pour vous accompagner. 5h30, 6h30, ça y est, on débute Cocorico. Philippe derrière le micro, ravi d'être là en ce 26 juin.
Left in a cold. Did you forget me here? I count the days since I was in your arms. Left for the crows, catching a thousand tears. Remembering your light between the dark. All the distance makes it harder. Where do we go?
Sur Phare FM avec cette nouveauté. Tommy profite à l'instant sur Phare FM, la radio autrement.
5h30, 6h30, Cocorico.
Avec Philippe.
Un petit coup d'œil dans le prochain quart d'heure dans Cocorico sur Phare FM. Tiesto pour côté musique avec Présentiel à Moment avec Jésus, votre rendez-vous d'encouragement à 5h40 comme tous les matins. Big Flo et Oli, un très bon duo de frangin, dommage hein. Un peu de souvenir, un peu de nostalgie. Et là, bah, c'est Louane Monde, cette voix qui nous a représenté il y a quelques mois à l'Eurovision à Bâle avec son beau titre Maman que j'affectionne tout particulièrement. Bon réveil, bon petit déj, très belle suite de journée. Vous êtes en plein cœur de Cocorico. Let's go.
Comme toi, je te cherche, je te trouve en moi. Je dois vivre sans toi. Est-ce que tu regardes toutes mes victoires, toutes mes défaites quand j'ai peur le soir? Est-ce que tu vois comme elle grandit? Est-ce que tu et je me demande s'il existe un monde où mon cœur s'apaise, où tout s'arrête. Et je me demande s'il existe un monde où la colère passe, où tout s'efface. Et je me demande s'il existe un monde, s'il existe un monde. Quoi faire? Faut que je me réveille. Je fais des mauvais rêves. De toi, tel sans toi. Je la regarde. Est-ce que tu me regardais comme ça? Est-ce que tu regardes toutes ces victoires, toutes ces défaites quand je lui parle le soir? Et je me demande s'il existe un monde où mon cœur s'apaise, où tout s'arrête. Et je me demande s'il existe un monde où la colère passe, où tout s'efface. Et je me demande s'il existe un monde, s'il existe un monde. Je cœur s'apaise ou tout s'arrête. Et je me demande s'il existe un monde où la colère passe ou tout s'efface. Et je me demande s'il existe un monde, s'il existe un
Louis prend son bus, comme tous les matins, il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours, ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle, elle est si belle, il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue, et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire. Assez dommage, c'était la dernière fois.
Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine.
Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Diego est affalé au fond du canapé, il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis, comme souvent seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit, il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé, c'était à cette soirée que t'allais la rencontrer.
Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise, à cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée.
Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
Présentiel, un moment avec Jésus, vous est proposé par ICNews en partenariat avec Phare FM.
Bonjour, mon ami. Tu veux voir mon Église unie? Alors commence par l'endroit que le monde évite, l'humilité. Là où l'ego réclame, l'amour cède. Là où la fierté divise, l'humilité rassemble. Tu n'es pas appelé à te comparer ni à dominer, mais à te courber pour servir. C'est là que mon cœur bat. comme l'a écrit mon serviteur Paul. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Mon ami, chaque fois que tu t'humilies par amour, tu ressembles un peu plus à moi, ton ami.
Seigneur Jésus, aide-moi à vivre dans l'humilité et à servir les autres avec amour. Que je sois un instrument de paix et d'unité dans ton Église. Donne-moi la force de mettre de côté mon ego et ma fierté pour me courber et servir avec un cœur sincère. Je veux ressembler davantage à toi chaque jour et manifester ta gloire à travers mes actions. Que ton amour soit le guide de mes pas et que je puisse contribuer à l'unité de ton peuple. Merci pour ton exemple d'humilité et de service. Amen.
Retrouvez Présentiel, un moment avec Jésus, en podcast sur pharefm.com/replay et sur votre plateforme d'écoute favorite.
Pharefm, ma radio autrement.
Et j'entends la machine à café couler chez vous pour préparer ce petit déjeuner, cette journée qui va être chaude avec ces orages dans l'ouest de la France. Grande prudence hein, si vous êtes dans ces endroits-là. Avant 6h, quand je regarde un peu le prochain quart d'heure, justice arrive côté musique. Hein. Hillsong FR, très beau duo avec Glorieuse, fait tomber ta pluie. Et certaines régions, je veux dire, ils en ont besoin de la pluie. Hein. Mais Forest Frank également arrive juste là dans quelques secondes. Et côté rendez-vous, un petit clin d'œil. Bible Project arrive à 5h50. Un rendez-vous d'encouragement juste avant peut-être de partir au travail. Bah allez, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est dans moins de 10 minutes. Bienvenue dans Pause Café.
5h30, 6h30, Cocorico.
Avec Philippe.
Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your way's better. Oh, oh, your way's better. Everything you say, making waves like a jet ski. You love every part of me, even when I was messy. Now I see the art in your beauty, so I can finally sing out. Jehovah Jireh provider, your way always gets me higher. Even on my darkest days, you're a lighter. You put my heart back together. I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Jesus, Lord, I need you now more than ever. Would you put my
cette nation, envoie ton esprit. Avec abondance, répands ta présence, envoie ton esprit.
Prépare la moisson sur cette nation, envoie ton esprit. Avec abondance, répands ta présence, envoie ton esprit. Oh, dans chaque cité, village et vallée, envoie ton esprit. Seigneur, ouvre grand le ciel, c'est l'heure du réveil.
Expérimenter la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus.
Le livre de Deutéronome est le cinquième livre de la Bible et le dernier livre de la Torah. Après l'exode d'Égypte, le peuple d'Israël est resté pendant un an au pied du mont Sinaï pour sceller une alliance avec son Dieu. Ensuite, ils ont entrepris une chaotique traversée du désert au cours de laquelle la génération de l'exode s'est disqualifiée et donc vue privée d'accès à la terre promise à Abraham. Dès le début de Deutéronome, on voit Moïse se tenir devant cette nouvelle génération pour leur expliquer la Torah. Et c'est à partir de là que la structure et le but du livre se dessinent. Le livre de Deutéronome est en soi une série de discours où Moïse appelle la nouvelle génération d'Israël à demeurer fidèle à l'alliance conclue avec leur Dieu. La partie centrale du livre sert de récapitulatif des lois qui dictent les termes de l'alliance entre Dieu et Israël. Certaines de ces lois sont nouvelles, mais plusieurs d'entre elles sont des rappels des lois précédemment données au mont Sinaï. Et c'est en fait de là que le livre tire son nom. Ça vient du mot grec Deutéronomion qui signifie « deuxième loi ». Et ces lois sont encadrées aux extrémités par deux sections du discours de Moïse. Et chacune de ces sections est elle-même divisée en deux parties.
Phare FM vous a présenté Bible Project. Retrouvez cet épisode en intégralité et en vidéo sur bibleproject.com/français.
Phare FM, quand la musique vous change. Anybody do the things you do before?